Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui animée par Valère Marie Marchand. Cette émission est consacrée à Michel Quint et à son nouveau roman, La Printanière, qui vient de paraître aux éditions Serge Safran. Elle a été pré-enregistrée lors du passage de l'auteur à Paris. La réalisation technique est signée par le fidèle Xavier Lecomte, que je salue très amicalement, et qui a orchestré avec brio l'entretien qui va suivre. Alors Michel Quint est l'auteur entre autres d'Effroyable Jardin, qui a été traduit en 25 langues et adapté au cinéma par Jean Becker. Il est titulaire d'une licence de lettres classiques et d'une maîtrise d'études théâtrales à Lille. Parallèlement à sa carrière de professeur de lettres classiques, puis de théâtre, il a d'abord écrit des dramatiques et des feuilletons radiophoniques pour France Culture, puis il s'est consacré au roman noir. En 2014, il a été récompensé par la Plume de Cristal au Festival international du film policier de Liège pour Veuve Noire. Dans La Printanière, il nous retrace sur fond de boxe féminine l'itinéraire d'Étienne, un prof alternatif, un peu à la dérive, qui part à la recherche de Mado, une jeune inconnue qui vient de le sauver d'une agression. S'ensuit une quête identitaire qui le renvoie à son passé et que je vous laisse découvrir ici. Michel Quint, bonjour.
Bonjour.
Donc nous allons parler de La Printanière, c'est votre nouveau roman qui vient de paraître chez Serge Safran éditeur, un roman avec qui a du punch, hein. La Printanière c'est le printemps, c'est la boxe aussi. L'idée de départ de votre livre, de votre roman, Michel Quint.
À vrai dire, je ne sais plus. Non, j'avais envie de comment dire, non pas de rendre hommage, mais de partir des romans de Modiano, donc de la recherche, de la remontée dans le passé, du travail sur les lieux, du travail sur les, alors j'aime pas le mot, les racines, enfin sur ce qui nous rattache à ce qui s'est passé avant, à nos morts qui sont pas morts d'ailleurs, qui sont au contraire qui continuent à vivre dans notre mémoire, au travail sur la mémoire. Donc oui, j'avais envie de ça, j'avais envie de reprendre le flambeau de Modiano. Quand Rue des Boutiques Obscures est sortie et qu'elle a eu le Goncourt, je suis allé à Rome, via delle Botteghe Oscure, pour voir l'endroit d'où était né ça. Et puis voilà, ça m'est revenu, et puis le reste est venu. Et en même temps, j'avais envie de parler de boxe. Et de boxe féminine, parce que le fait que désormais les sports réputés masculins, virils, réservés aux mecs, quoi, aux purs et durs, soient pratiqués par des femmes, et plutôt mieux pratiqués, je dirais, parce que, ne serait-ce qu'en foot, on voit pas les femmes se rouler par terre au moindre choc. Non, non, elles continuent, elles sont tenaces. Et puis... En rugby, c'est pareil. Rugby, c'est mon sport, c'est mon sport favori, c'est celui que j'ai pratiqué, et c'est pareil, quoi. Et puis elles sont plutôt bonnes là, hein. Elles sont au championnat du monde, elles ont battu l'Afrique du Sud là de façon assez péremptoire. Et donc j'avais envie de ça aussi. Donc j'ai mélangé un peu tout ça. En plus, j'avais envie de parler de toute cette vie sur le fil, sur la frontière belge, cette vie nocturne, cette vie d'étudiant que j'ai vécue il y a maintenant plus de 50 ans, parce que je suis plus exactement un gamin. Et donc j'avais envie de mélanger tout ça. Et puis en mettant tout ça dans le mixeur, bon, ça a donné La Printanière.
Alors c'est le printemps, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'il y a cette idée du passé présent, y compris dans votre vie, puisque la femme de votre vie, vous l'avez retrouvée bien bien longtemps après. Donc c'est l'inconnu, c'est le passé pour vous.
Oui, c'est toujours le thème de la mémoire, le thème de savoir ce qui s'est passé avant, ce qui a pu. C'est Jeanne Benhamer qui parle de l'origine de nos larmes. Bon, c'est un peu ce que je cherche. L'origine du tragique, ce qui fait que on est comme dans Racine, quoi. pourquoi Phèdre est victime de cet amour pas possible, mais au quotidien, dans la rue, dans nos rues à nous, dans les gens qui... alors, bon, on peut parler aussi de psychanalyse généalogique ou de choses comme ça. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui reste en nous. Puis je me souviens de Paul Fort, Petit Verglas, hein. C'est Brassens qui en parle et qui le dit. Je ne savais pas que ton père était mort sur l'échafaud. Bon, moi je veux savoir si le père de ou la mère de mes personnages sont morts sur l'échafaud.
Alors, Paul Fort, c'est le petit cheval blanc, c'est... Oui. Là, la printanière, en fait, c'est vraiment le boomerang aussi du passé. C'est une jeune femme qui va sauver votre narrateur, hein,
Le début, oui.
Voilà, c'est le début, on va pas tout raconter, parce que c'est... Et c'est vraiment le passé qui lui revient en pleine figure, c'est qu'à le dire à votre narrateur. Ça, on peut penser aussi à Œdipe, par exemple.
Oui. Oui, oui, oui. Ben, bien sûr qu'il y a un côté oedipien là-dedans, qu'il y a un côté la généalogie, les géniteurs sont responsables de plein de trucs. Et on peut pas révéler la fin, évidemment. Mais il y a le côté jocaste et
Voilà. Il y a le côté de la rencontre sur la route. Alors, votre narrateur se définit ainsi parce qu'on est dans les transports en commun, on connaît, c'est au moment des gilets jaunes, avec les black box, etc. Mmh. Je fais partie d'une sorte de communauté de naufragés, isolés à la remontée du métro. Donc, on est dans l'anonymat, et de cet anonymat-là, une singularité va naître.
Oui, alors, c'est anecdote, hein. Vous connaissez Nathalie Cohen, hein, la compagne de Pierre Assouline, et on s'est retrouvés tous les deux dans une manif de gilets jaunes à Toulouse. Donc, j'ai transposé ça à Lille, mais il y a du vécu là-dedans. Et effectivement, oui, dans cet affrontement, peut naître quelque chose, comme dans tous les affrontements, comme dans toutes les situations difficiles. Une grève SNCF, il y a une solidarité des naufragés du train. Bon, là, c'est un peu la même chose. Alors, avec ce truc que je n'aime pas, c'est les black blocs, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas de revendications, c'est des gens qui sont là pour casser, pour faire mal, et donc c'est ça, on l'a pas vécu avec Nathalie, mais ça, j'ai voulu mettre ça en scène parce que c'est ce qui vient, je dirais, pourrir le véritable mouvement de revendication. Mmh. Et qu'il décrédibilise.
Mmh. Il y a sur la violence pour la violence.
Oui, alors ça, la violence, c'est un truc que j'aime pas du tout, et surtout pas celle faite aux femmes, parce que mon bouquin précédent traitait de ça, des violences faites aux femmes. Mais ça ne règle rien. Et surtout, cette montée de la violence actuelle est bien la preuve que les mots ne suffisent plus et qu'il y a un déficit total d'expression verbale. On peut plus s'expliquer. Donc c'est les poings qui parlent. Et d'où la boxe. Ouais. Ces femmes ne sont pas là. Ces jeunes femmes que Étienne, mon héros, va rencontrer, ne sont pas là pour apprendre à cogner. Mmh. Elles sont là pour maîtriser leur corps. Elles sont là pour avoir la dignité du muscle, je dirais, et surtout pas devenir des cogneuses de banlieue.
Donc il y a deux personnages, hein, au départ. Il y a votre narrateur, qui est prof, hein, tout simplement.
Oui, c'est un prof en rupture de banc. Alors c'est assez important, on va comprendre un peu à la fois, et on aura la solution à la fin. C'est quelqu'un qui a abandonné l'éducation nationale et qui, bon, il a quelques revenus, parce que son père lui a légué quelques biens immobiliers. Et puis il complète tout ça en donnant des cours particuliers, avec un certain détachement, avec un certain dandysme, qui peuvent paraître désagréables. Je pense qu'ils s'aiment pas, Étienne, il ne s'aime pas. C'est Daniel Herrero qui disait de ses avants de Toulon, quand ils avaient perdu la finale du championnat de France de rugby, on lui a demandé pourquoi, il avait dit « je pense qu'il ne s'aimait pas ».
Donc, Michel Quint, votre personnage ne s'aime pas. D'ailleurs, voici ce qu'il dit. « Avec mon physique de flahute, en asperge de l'os pas lourd de muscles, le cheveu blondasse et plutôt ras, gueule de paroissien sage, je connais d'instinct mes limites dans une guérilla urbaine. Ma seule technique de survie est l'évitement, faire retraite avant tout contact. » Malheureusement, c'est aussi, nous vivons dans une société de l'évitement, et vous la décrivez.
Oui, bien sûr qu'on est dans une société où il vaut mieux rester à l'écart, où il vaut mieux pas s'engager, où il vaut mieux, bon, on l'a vu avec l'affaire Annie Ernaux là récemment, il vaut mieux se taire, il vaut mieux pas faire confiance aux fake news ou aux vraies news d'ailleurs, mais on est dans une société où on peut plus véritablement prendre parti sans avoir la certitude d'avoir des bases solides pour prendre une décision. Et alors là, en plus, bon, je veux dire, quand c'est une affaire de violence, quand c'est une affaire d'engagement physique, il a la cinquantaine, c'est pas un type qui a une hygiène de vie terrible, c'est même pire que la mienne, et donc. Il va pas prendre le risque, quoi. Il faut qu'il fuit. Sauf qu'il a, au moment où on le prend pour un flic, au moment où on a envie de le cogner, où le Black Bloc a envie de lui rabattre une barre de fer sur la tête, il y a là un petit couple de petits vieux. Et eux, ils risquent plus que lui.
Ouais.
Et donc, là, il a encore quand même un réflexe, qui est un réflexe d'engagement humain, puisque il va avoir la tentation de leur demander, une fois qu'il a été sauvé par Mado, par cette jeune femme, leur demander si ça va, si. Et évidemment, quand il se retourne, Mado n'est plus là. Enfin, Mado, il ne sait pas à l'époque voilà. Qu'elle s'appelle Mado.
Alors, pour résumer, en fait, votre narrateur, au début, se trouve dans une manif, enfin bref, et puis il y a une jeune femme qui s'appelle Mado, qu'il ne connaît pas, mais qui le fascine et qu'il décrit d'ailleurs comme la muse souriante des transports en commun. Donc, c'est une silhouette agréable qui le suit, qui est là, et qui va le tirer d'affaire. Hein,
Oui, le tir d'affaire. Alors, il vient de la croiser dans le métro, il vient de la voir affronter un manifestant particulièrement violent, mais de façon ironique et sans violence de sa part à elle. Et puis elle le sauve elle le sauve d'un uppercut, je sais plus comment je décris ça, mais enfin d'un uppercut du droit après un crochet du gauche. Et elle a des chaussures de boxe. Donc quand il la perd de vue, il se dit, c'est une boxeuse. Donc, je vais la retrouver comme ça, par la boxe.
Voilà. Par la boxe. Et ce que vous décrivez très bien, c'est la solitude en pleine foule, la solitude dans la ville. Maintenant, dans le premier hall de la gare, interdit de quai, on est un dernier carré, une masse agglutinée d'otages, dont ne sait pas qui, des prix entre deux feux. Il y a plusieurs romans dans le roman, c'est-à-dire il y a la recherche de Mado, la solitude de cet homme, l'incertitude de ce professeur. Et puis la ville qui est très présente, je trouve.
Oui, bah oui. Bon, je n'habite plus Lille depuis 4 mois, mais ça fait 73 ans que c'est ma ville. Donc je la connais pavé par pavé, et je sais très bien ce qu'elle peut susciter d'histoires, d'anecdotes, et je sais très bien aussi ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire les manifs en 34, le cheval qui traverse le café de la paix, des choses comme ça, les endroits où il y avait les croix de feu, tout ça, je connais, enfin le passé de la ville, je l'ai dans les poches, donc. C'est toujours la même histoire, c'est toujours le même truc. La ville de Lille, je lui recherche aussi ses racines,
On a l'impression que chaque pavé vous parle. Et puis vous parlez d'ailleurs des gens du Nord, hein. La parlure.
Oui, ben oui, parce qu'il y a quand même, je veux dire, il y a l'accent marseillais, il y a l'accent de Strasbourg, il y a aucun accent n'est honteux, quoi. C'est la trace de l'appartenance à un territoire et d'un héritage. Bon, en ce qui me concerne, j'ai un arbre généalogique qui remonte en 1430. Alors j'ai deux ancêtres en 1430. Et oui, ça fait 18 générations. Et c'est toujours les départements actuels du Nord, du Pas-de-Calais et la proche Belgique. Pour mémoire, Jeanne d'Arc a été brûlée en 1431. Donc, ça dit mon appartenance à ce territoire.
Oui, alors il y a une forme d'enracinement. Enracinement aussi de la boxe, parce que on pense à Georges Carpentier. Enfin bref, la culture de la boxe est très ancrée dans votre région. Hein.
Oui, absolument. Mon père me réveillait pour écouter les combats de boxe de Charles Humez. Donc, j'ai été un peu baigné là-dedans. Et effectivement, je suis allé voir Charles Humez dans son bar à Hénin-Liétard. Je dirais pas Hénin-Beaumont parce que c'est un non.
Mais c'est vrai que voilà, il y a tout un contexte et votre narrateur va rencontrer plein de femmes finalement pour parvenir à cette dénommée Mado. Les femmes, voilà. Et puis avec il y a des paroles comme ça prises au vol. L'usine, c'était comme je dirais de la souffrance de vie, Monsieur Étienne. Je peux pas mieux dire, de la souffrance de vie. J'aime bien ça. Il y a une sorte de refrain. Vous les prenez au vol ces paroles. Comment écrivez-vous, Michel Quin?
Ben ça c'est des paroles, je dirais reconstituées. Je les ai pas entendues. Je les ai inventées, mais j'ai dans l'esprit les femmes qui auraient pu les dire, c'est-à-dire toutes les ouvrières de la lainière à Roubaix. Bon, mon beau-père était le médecin du travail de la lainière, donc j'ai ça en plus comme je veux dire dans les poches. Mais j'ai beaucoup parlé avec les anciennes ouvrières de la lainière. Et ce qui est terrifiant, c'est qu'elles ont bavé, mais comme c'est pas permis. Exemple, on leur mettait, il y avait des fenêtres tout là-haut, près des métiers, et on leur collait des papiers pour qu'elles ne regardent pas dehors. Donc les fenêtres étaient occultées. Et elles déchiraient juste un petit coin pour voir le jour. Bon.
Ajouré, une petite. Un ajour.
Oui, donc ça veut dire que. Mais en même temps, elles m'ont toujours dit s'il fallait le refaire, on le referait.
S'il fallait le refaire, votre narrateur le referait, quoique, parce que finalement, ce roman, c'est aussi un peu votre vie, c'est aussi, comment dire, la construction de soi. C'est-à-dire, il met les compteurs à zéro. Mon départ n'a suscité aucun séisme. Le cours de la vie s'est refermé sur moi comme l'eau sur un caillou après un dernier ricochet. J'avais la sensation, après mon doctorat, les concours à l'entrée dans la vie active, de faire guide dans des régions, dans des séjours exotiques, latin, grec, français, all inclusive, négocier une excursion en ablatif absolu, en aoriste 2, et garantir le bac comme une photo de fin de séjour. Donc il veut pas être le touriste de sa vie, il veut être acteur de sa vie.
Ouais, il veut surtout c'est quelque chose en lui qui le pousse à enfin essayer de faire le point de non pas de savoir qui il est, mais de sentir qui il est, d'arrêter d'en chier, quoi. Voilà.
Et il décrit comme ça son métier de prof. Je suis désormais un indépendant de l'éducation, un mercenaire de l'explication de texte, un coach de l'oxymore tenu à résultat. Et il se dépeint d'ailleurs comme un pédagogue alternatif.
Oui, absolument. C'est une façon de. C'est comme si une femme qu'on accuserait de mauvaise conduite se mettait à faire des photos légères.
Et au moment donc qu'il y a les Black Box, d'ailleurs, il dit « La meute des valeureux Black Box va nous écrabouiller, il va falloir jouer à la garde, meurt, mais ne se rend pas. » Il ne se rend pas, et non seulement il ne se rend pas, ça l'éveille, ce coup de poing.
Oui, bien sûr que ça le, oui, c'est exactement le terme, ça l'éveille, ça le réveille, d'un seul coup, il y a un autre but dans la vie, d'un seul coup, il doit quelque chose à quelqu'un. Et là.
À une femme, en plus.
À une femme, une jeune femme. Une jeune femme. Donc, il n'est pas question de coup de foudre amoureux, il n'est pas question de ça. Il est juste question que il doit la vie à quelqu'un. Et à la fois, c'est pas une vraie dette. C'est il faut qu'on puisse en parler quoi avec elle. C'est plus qu'une dette. Donc il faut absolument qu'il la retrouve.
Il faut qu'il fasse le lien.
Il faut qu'il fasse le lien. Oui, le lien avec lui.
Et avec elle et avec
voilà. Parce que alors c'est. C'est compliqué à dire sans dévoiler, mais il ne se pense pas digne de tout ça.
Bah, on peut dire quand même que votre narrateur est professeur. Bon, il s'y connaît en éducation, mais les enfants, la paternité ne l'a pas.
Ah non, ça, il a un père qui était un père de comptoir, comme il le dit, qui était reporter sportif à La Voix du Nord, le grand quotidien lillois. Et puis, lui, il a pas d'enfant, il a jamais été marié, c'est même pas un homme à femme, c'est juste un type qui est, pour l'instant, dans la marge. Et qui sait très bien pourquoi il est dans la marge. Mais cette jeune femme va le sortir de là.
Elle le sort de là, elle donne sens.
Elle sait pas pourquoi. Enfin.
Non, mais c'est aussi ça la vie.
Oui, bien sûr. Mais il faut retrouver le contact là. Il faut faire en sorte que ça ait une signification ça. Sinon ça n'en a pas. Sinon c'est du hasard. Hein. Ça n'a pas de sens non.
Il faut aller au combat quand même.
Oui, il faut aller au combat, il faut y aller. C'est pour ça qu'il va aller aussi dans les salles de boxe, ce que j'ai fait.
Oui.
Hein, vous voyez, je suis allé interviewer des jeunes femmes et à chaque fois, je m'asseyais à côté de jeunes femmes transpirantes avec des gants de boxe aux mains et puis qui. À qui je posais des questions et qui répondait avec une gentillesse incroyable et qui n'étaient pas des faillites de banlieue hein, et
c'était pas des cogneuses.
Non, c'était pas des cogneuses, elles étaient à 99%, elles étaient étudiantes, elles étaient en master d'économie, elles étaient en troisième année de droit et puis bon et ça m'a épaté quoi cette prise de c'est pas une prise de pouvoir c'est cette prise de pouvoir sur soi de ces filles qui assumaient complètement leur statut.
Elles vous ont expliqué pourquoi elles faisaient de la boxe parce que finalement autrefois on faisait de la boxe parce que pour s'en sortir pour les il y avait que des hommes hein, pour vraiment sortir justement dans le Nord, etc. C'est sortir de sa condition.
Oui, les hommes, effectivement, c'était une promotion sociale, quoi. C'était une façon de pas être dans le textile ou à la mine. Là, non, c'est pas pareil. C'est autre chose. C'est une façon de se posséder soi-même. C'est une façon pour ces jeunes femmes de dire je vais être un peu grossier là, déjà, je vous emmerde.
Oui, est-ce aussi trouver son... Parce qu'il y a une parenté avec l'écriture, avec votre écriture, Michel Quint. Il y a un travail sur le rythme.
Oui.
Il y a un travail de reconstruction de la phrase, de syncope de la phrase, parfois. Donc, le rythme, c'est la boxe. Il y a aussi ça, trouver son style.
Oui, mais là, c'est parce que la boxe vient après le jazz.
Voilà.
C'est un jazzman et puis une jazzwoman qui est quand même assez connue, Gunhild Carling, qui habite Cupertino et qui est suédoise, qui m'ont dit que j'écrivais jazz, quoi, avec des syncopes, avec des machins. Et donc, effectivement, la boxe, c'est un sujet qui me correspond. Je ne suis pas le Mohamed Ali de la littérature, mais j'aimerais bien.
Parce qu'il y a vraiment un travail sur le rythme, la scansion, Et vous, d'ailleurs, vous, votre narrateur évoque la, est-ce que la bibliothèque de votre narrateur ressemble à la vôtre? Parmi les romans souvent ouverts, les Modiano avec des doublons, des éditions différentes, des intactes et des griffonnés de partout, cornés, dos cassés, des bouquins à gueule cassée sont devenus ma table de travail. Je me suis dit, sans doute, Michel Quint, on a parlé de Modiano, mais il est là.
Oui, il y a la box dans la bibliothèque, quoi. Alors, comme je viens de déménager dans le sud, ça fait 4 mois que je passe à ouvrir des cartons de bouquins. Il y en a 4000 à la maison. Donc, construire des bibliothèques, y ranger des bouquins dont je me souvenais pas que je possédais. Et là-dedans, il y a un bouquin que je cite là-dedans sur Panama Al Brown, qui est un poids bantam, un poids poule, un poids coq, on dit en français.
Ouais.
On dit pas poule, on dit coq. Bantam, ouais. C'est une poule, mais bon, voilà. Et qui était champion du monde, c'était un Panaméen. C'était un ami de Jean Cocteau, bon, c'est tout dire. Il buvait pas de l'eau dans son coin, il buvait du champagne. Il donnait un coup parce que à chaque fois il se brisait la main et à chaque fois il gagnait par KO parce qu'il avait le punch. Et quand il est mort, il y avait plus un sou, donc ses copains ont traîné sa dépouille, son cadavre dans les bars new-yorkais et pour demander de l'argent pour l'enterrer. Et puis ils ont fini par boire l'argent et par l'oublier sur une banquette.
Donc
c'est, je trouve ça magnifique.
L'oubli de la vie, l'oubli de.
Ouais.
Mais il y a dans votre livre, il y a l'amitié, il y a la rencontre, il y a la surprise de l'inattendu tout le temps, et avec toujours une continuité parce que vous ne perdez jamais le fil rouge.
Alors il y a, je suis un homme de lettres classiques, hein, quand même. Donc j'ai lu Boileau. Et il faut pas gâcher. Tout ce qui est au début, ça doit être à la fin. Ça doit être résolu à la fin. Et ça, je m'y tiens. Et il y a quelques-uns de nos contemporains qui font la même chose. Et si je peux me permettre de citer, le soldat désaccordé de Gilles Marchand, c'est magnifique. De ce point-là. Parce que tout, à la fin, tout se rebidouille, les boulons sont, voilà, c'est tout. Moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin, tous les boulons soient, voilà.
Le polar, c'est une bonne école?
Ah, le polar, c'est une bonne école pour ça, ouais. Parce que il y a pas de littérature, c'est Satie qui parlait de musique d'ameublement. Bon, dans le polar, il peut pas y avoir d'ameublement. Ou alors, c'est nul. Je suis en train de lire, un bouquin italien que je ne citerai pas, il y a de l'ameublement sur la bouffe, il y a de l'ameublement sur la relation avec les femmes. Et là, j'ai lu ça dans le train en venant ici à Paris. Normalement, j'aurais dû le finir. Je suis au tiers.
Donc c'est, il y a une, voilà, vous avez une, l'essentiel, faut le dire et il faut bien le concevoir. Quand vous commencez un livre, quand vous avez commencé ce livre là, ce roman. Il y a le punch, parce que moi, on sent ça chez vous. Et s'il y a le punch, et après, comment ça se... Vous avez tout en tête, ça se construit, non?
Non, j'ai pas tout en tête. J'ai la fin, en général, en tête, qui arrive très, très vite. Et j'écris même les phrases de la fin. Et j'ai une amie que tout le monde connaît, qui s'appelle Carole Martinez, pris au cours des lycéens, etc. Le cœur cousu, magnifique, domaine des murmures. Et un jour, on était au resto ensemble, et d'un seul coup, la dernière phrase d'un roman, je me souviens plus lequel, me vient, j'écris ça sur la nappe en papier, je déchire, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'ai trouvé la dernière phrase de mon roman. Elle regarde, et elle me dit, t'enlèves l'adjectif, là. Là, tu mets une virgule. Et ce que j'ai fait, et depuis, c'est un rituel entre nous. Chaque fois que j'ai la fin d'un roman, je lui envoie. Et normalement, on se voit demain matin. Et je lui ai transmis la dernière phrase d'un prochain roman.
Donc c'est la femme de la dernière phrase, ça pourrait être...
La femme de la dernière phrase. Et elle me renvoie la phrase qu'elle est en train d'écrire. Qui n'est pas forcément à la fin, ni au début, ni... Bon, voilà. C'est tout. C'est un échange amical, mais qui est... Bon, qui est un rituel qui me permet de d'y penser, quoi, de me dire, ah là, il faut que tu trouves la femme. Mais de toute façon, j'ai l'idée. Après, bon, je mets une phrase ou deux, et puis elle me corrige, et puis voilà, on est content, quoi.
Mado aussi, ça peut être la femme, la jeune femme de la dernière phrase.
Ah, Mado, oui, ça peut être c'est plus que ça. Mado, c'est à la fois le début et la fin. Mais on ne sait pas si c'est vraiment le début. Et à la fin, oui, forcément.
Oui, à la fin, forcément. Ouais. On va faire une pause musicale, Michel Kahn. Bon.
Un jour tu verras, l'on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, ces deux voleurs qui gardent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un bal très pauvre et très banal, sous un ciel plein de brume et de mélancolie. Un aveugle jouera l'orgue de barbarie. Cette ère pour nous sera le plus beau, le plus joli. Puis je t'inviterai, ta taille je prendrai. Nous danserons tranquille loin des gens de la ville. Nous danserons l'amour, les yeux au fond des yeux, vers une fin du monde, vers une nuit profonde. Un jour tu verras, l'on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons.
Michel Kahn, nous parlons de votre livre, de votre roman La Printanière, qui vient de paraître aux éditions Serge Safran Éditeur. Un roman punchy, voilà, sur la rencontre entre un homme d'âge mûr avec une jeune femme boxeuse qui va le tirer d'affaire lors d'une altercation. Et puis, grâce à cette cette personne inconnue, il va remonter le fil rouge de sa vie, on va dire, et ça va aller très loin. On laisse aux lecteurs, à vos futurs lecteurs, le soin de découvrir la fin. Mais il y a des interrogations dans votre livre, Michel Quint, sur l'écriture, toujours. Plus tard, il est possible que je tente d'écrire un roman à moi, d'exister pour de vrai plus tard. Cette phrase, on sent qu'elle a un sens pour vous aussi, bien évidemment. Comment vos premiers écrits, c'était de la poésie, je pense, non ?
Ah, non, mes premiers écrits, c'était des feuilletons à la Zévaco, à la Alexandre Dumas, quand j'étais en sixième. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de rien faire en études. On passait, c'était 8h du mat, 6h30, 18h30 au lycée, y compris le samedi. Enfin, le samedi, on finissait à 17h. Donc il fallait occuper ces heures creuses, et moi comme on n'avait pas le droit de rien faire, j'écrivais des romans feuilletons comme ça au kilomètre. Et puis ensuite en troisième, j'ai rencontré une petite demoiselle. Alors à la radio c'est difficile de montrer sa photo, mais elle est encore belle à 75 ans, même très belle. Et puis comme elle aimait pas, je voyais pas le rugby. Ça pouvait pas l'intéresser. Je déteste danser. Je chante faux. Donc il fallait bien que je trouve un moyen de la séduire. Donc je me suis mis à écrire des poésies nulles. Nulles. Et quand elle est pas contente, elle me les remontre. Bon, voilà, parce qu'on est ensemble.
Mais oui, parce que c'est une histoire romanesque.
Oui, c'est une histoire romanesque. Et d'ailleurs, j'ai écrit un roman qui en quelque sorte vient de cette histoire où on a été séparés, puis on s'est retrouvés, puis voilà, on est ensemble depuis 20 ans maintenant. Et voilà, c'est de là aussi que vient mon écriture, c'est que je lui ai promis d'être écrivain, et que en plus, bon, j'aurais pu lui promettre et m'en foutre, mais c'est parce que j'en avais aussi très envie. Je continue à lire comme un cinglé, je lisais comme un cinglé à l'époque, et donc oui, ça c'est exister pour moi, c'est lire et donc écrire, parce qu'il faut faire partie de l'orchestre, quoi, c'est pas le tout d'écouter. Alors je peux écouter du jazz, j'ai un gendre qui est tromboniste de jazz, je peux écouter du jazz, mais je suis infoutu d'en jouer, ça j'ai essayé, hein. En revanche, lire et écrire, oui, ça je peux, donc je le fais.
Et c'est vrai que voilà, on sent qu'il y a beaucoup de matière. Vous travaillez avec la matière de l'écriture compte pour vous, vraiment, Michel Quint. Et vous êtes, c'est aussi une interrogation, c'est ce que je disais tout à l'heure, nos destinées, mais vous n'aimez pas ce mot de destin, je pense pas. Vous n'aimez pas ce qui est, vous dites, les dieux de la littérature sont d'une telle malice qu'ils nous laissent croire que vous choisissez un destin jamais écrit, mais ils vous amènent, ou ils ont décidé, avec des bagages utiles au voyage. Là, au contraire, on sent que votre narrateur se déleste de certains bagages, toujours.
Oui. Mon narrateur, c'est pas... Moi, je serais plutôt sartrien. C'est-à-dire qu'on fait des choix. La liberté, c'est notre guide. Et à partir du moment où on fait un choix, on l'assume. À la fin, on fait la somme, comme c'est dit dans Huis Clos. Et puis, l'existence précède l'essence. Et puis, mais lui pense que... Étienne, le narrateur, il pense que... Bon, voilà. Il a des... Comment dire, des espèces de dieux littéraires, quoi. Comme alors, je vais retravailler là-dessus d'ailleurs sur les aides, sur tout ça, dans un prochain roman. Mais je pense que oui, on a des dieux littéraires. On est Claudel ou on est Modiano. C'est pas pareil, hein, quand même.
Non, c'est pas pareil.
Voilà. et donc il a tendance à se conformer. Et c'est pas vraiment un destin. Mais c'est une façon de négocier avec la vie.
Négocier avec la vie, est-ce qu'il faut être soi-même un personnage de roman pour écrire ? Parce que Il faut avoir vécu, forcément.
Ah oui, 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 ça il faut... Oui, je pense qu'il faut avoir vécu. Je pense qu'il faut avoir souffert, je pense qu'il faut avoir aimé, je pense qu'il faut avoir voyagé, je pense que tout écrivain est un... pour faire un peu cuistre, quoi, c'est un satrape. Mmh. C'est-à-dire que c'est les yeux et les oreilles. Il n'arrête pas... L'écrivain n'arrête pas de regarder, d'écouter, de... Dans tout à l'heure au resto, j'ai écouté, j'ai cru comprendre que les gens qui mangeaient à côté de moi étaient des délégués CGT montés à Paris. Je me suis posé la question de savoir si c'était des délégués CGT des raffineries d'essence. J'ai pas eu la solution, mais ça m'intriguait. Ceci dit, j'ai dans l'esprit la gueule de cette déléguée CGT. Mmh.
Donc c'est visuel.
C'est visuel, mais en même temps, il y a des voix, il y a des voix. Et puis il y a des propos, il y a des façons de parler. Il y a c'est Michel qui est de permanence, hein, fais attention. Hein. Et voilà, il y a des. Alors il faut de la mémoire aussi. J'ai l'habitude de dire qu'un écrivain, c'est un bricoleur, c'est un ferrailleur, c'est quelqu'un qui a une remorque derrière sa bagnole ou qui a des grandes poches et qui a plein de trucs dans les poches. Et à partir du moment où il a décidé de traiter un sujet, ben il vide ses poches sur la table et il regarde ce qui va lui servir. On peut prendre la même métaphore avec j'avais un ami qui était un cuisinier admirable parce qu'il n'y avait jamais de recette. Il ouvrait le frigo. Oui. Il ouvrait le frigo et il regardait et il disait « Oh, on va faire ça ». Alors il était capable de faire des cuisses de grenouille au fenouil comme ça, quoi. Alors que on se souvenait même pas qu'on avait acheté des cuisses de grenouille congelées, et puis, mais il y avait du fenouil au fond du jardin. Et puis voilà.
Alors je pense une recette, le pain perdu.
Voilà, le pain perdu. Alors le pain perdu, c'est une recette que ma femme a donnée à Alex Jenny pour oui. une publication pour une association qui donne la façon d'accommoder les restes et le pain perdu pour moi c'est une recette d'enfance pour ma femme aussi.
C'était merveilleux,
oui absolument, en plus c'est bon, c'est peut-être un peu nourrissant pour un homme de mon âge. Donc,
en tous les cas, c'est savoureux parce qu'on a, il y a toutes les ingrédients.
Ouais. Oui, non, c'est un truc magnifique avec la cassonade en plus, avec tout ça. Bon, voilà, il y a pas que la Madeleine de Proust, il y a le paquet de Madeleine.
Alors là, pour revenir au sujet de votre livre, la boxe, entre autres, hein, parce que c'est le combat avec soi-même. Vous dites que c'est un sport crépusculaire. Est-ce que ce livre, c'est le livre du dernier combat ou du peut-être du dernier et du premier combat pour. Je parle de Mado, elle, c'est peut-être son premier.
Oui. Mado, c'est quelqu'un qui. C'est donc une jeune femme qui est assistante sociale. Et pour Mado, c'est une façon de. C'est une façon de compenser. C'est une façon de cogner dans le social, c'est une façon de faire en sorte que tout ce qu'elle vit au jour le jour de difficultés pour ses protégés, elle peut pas aller cogner telle administration, elle peut pas aller cogner. Donc c'est pour elle il y a une façon quand même, il y a un petit défouloir.
Mmh. D'ailleurs, il y a des descriptions, hein, c'est vraiment un langage du corps la boxe. Ouais. Il déboucle la cage des gants que chacun se serve et explique l'exercice que je connais maintenant par cœur où il faut faire travailler la hanche, exécuter des mouvements courts, toucher avec le devant du gant la tête des métacarpes et surtout aller vite sur les changements d'appui. Est-il de même pour l'écriture et pour la vie d'ailleurs, parce qu'il faut aller vite, faut avoir le réflexe, faut saisir l'élan de la vie au vol.
Pour la vie, oui, c'est sûr, il faut saisir les opportunités, les chances, ça on le sait. Moi, je serais plutôt un attentiste. Mmh. Bon, parce que je suis un peu paresseux. Et puis peut-être un peu orgueilleux, comme disant bon, si on veut de moi, ben on veut de moi, si on veut pas de moi, ben tant pis quoi. Un peu élitiste comme ça, à la vieille façon. Mais oui, il y a des moments où il faut pas hésiter, il faut prendre des décisions et la boxe est une parfaite métaphore de ça. Quand il y a l'ouverture, il y a l'ouverture. Il faut pas dire bon non, mais je vais attendre un peu et puis là je vais pas le frapper. Il y a l'ouverture, le menton est là offert. Il faut cogner. Mmh. Sinon on fait pas de boxe quoi. On fait du golf.
Oui, exactement. Il y a cette phrase, je ne fais rien pour contrarier le prévisible, surtout pas l'inévitable.
Voilà. Ça, j'ai rien ajouté là-dessus.
C'est vous qui l'avez écrit.
Oui, c'est la fameuse notion d'ananke en grec, l'inévitable. Mmh. Alors ananke est souvent traduit par le destin, c'est l'inévitable.
Mmh. Bon. C'est pour ça que je.
Oui, et donc c'est pas parce que c'est inévitable que c'est le destin.
Mais... Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on pense vraiment, il y a une sorte de à la mythologie aussi. Ici, d'ailleurs, c'est le passé qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui échappe au personnage et non pas l'avenir. Ouais. Finalement, l'avenir, il s'en soucie assez peu. J'habite un passé d'emprunt, un décor usé de trop de représentations.
Oui, l'avenir, il s'en fout un peu. Mais au fur et à mesure du bouquin, c'est ça son évolution, il s'en fout de moins en moins. Il est en train de se construire des espoirs. Et des désespoirs. Mmh. Il est en train de se construire un truc dont il ne sait pas très bien comment il va l'habiter. Mmh. C'est comme s'il achetait une maison sur plan, mais dont il n'a pas les plans.
Ouais.
Et il est en train de découvrir que ses plans vont venir du passé, vont venir de quelque chose sur quoi il ne peut pas revenir, sauf à le connaître, à l'identifier. Mais... il peut plus rien changer.
Mmh. Il y a aussi cette idée, je crois que c'est une autre phrase de votre livre, se bâtir la mémoire à partir de la conscience de l'oubli. Donc, en fait, c'est une prise de conscience. Il tourne la page, votre personnage.
Oui, il a envie de tourner la page, mais il sait très bien que ça va pas être possible. Que il a pris des notes. Et c'est comme ces Modiano écornés, ces Modiano dos cassés, ces Modiano maltraités qui peuvent plus combattre quoi.
Mais il combat toujours. Devenir plus qu'un être d'autofiction, devenir celui que je voulais pas être, sans pouvoir m'en empêcher, m'inventer pour de vrai. Est-ce que l'écriture vous invente, vous?
Oui, complètement. Oui. J'ai cette une certitude peut-être imbécile, mais je pense que je suis en partie, et je pense que tout écrivain est en partie composé de ces personnages, de ces histoires, parce qu'il a passé un temps infini dans sa vie à les vivre. Souvent je dis, et je persiste à le dire, que un écrivain, s'il fait son boulot correctement, c'est un comédien. C'est-à-dire qu'il faut qu'il investisse ce qu'il a vécu, sa colère, sa joie, son bonheur, ses jouissances, ses extases, ses désespoirs dans ces personnages. Parce que sinon, c'est quoi? Sinon, c'est du clicheton. Sinon, c'est des personnages de McDo, quoi. Donc, il faut qu'il soit comédien. Il faut que, si jamais il devait mettre en scène son roman, mettre en scène sur une scène, il soit capable d'interpréter et les méchants et les et les bons et les bons. Et c'est un truc que Valentine Gobbi est en train de faire avec son roman, L'île haute. Hein. Et elle apprend le boulot de comédienne. Le boulot de romancière, elle le connaît, elle le maîtrise. Le boulot de comédienne, elle est en train de l'apprendre grâce au roman.
Donc une sorte de don d'ubiquité, c'est-à-dire que être romancier, c'est être tous ces personnages.
C'est pas moi qui le dis, c'est Rimbaud. Hein.
Être à la fois, d'être dans tous les orchestres, enfin dans toutes les instruments.
Oui, et inventer, évidemment que tous les auteurs de romans policiers ont jamais été des assassins, mais ils ont tous eu envie de tuer quelqu'un. Il y a un moment où on dit, putain, je vais l'écraser, je vais le ratatiner. Bon, il faut se souvenir de ça. C'est les fameux si magiques de Konstantin Stanislavski, hein, le théoricien du théâtre russe au début du XXe siècle, celui qui a monté Tchekhov, et qui disait, voilà, et si j'étais cet homme qui a tué sa femme, et si j'étais cet homme qui a été quitté par sa femme, et si j'étais cette femme amoureuse d'un homme qu'elle ne peut pas avoir, qu'est-ce que je peux mettre là-dedans? La construction du personnage, c'est ça. D'ailleurs, il y a une œuvre de Stanislavski qui s'appelle La construction du personnage.
Est-ce que vous trouvez qu'actuellement on a un peu trop délaissé le personnage en littérature contemporaine, ou parce que un romancier, c'est un univers? C'est aussi un créateur de personnages. Je pense à Simenon, par exemple.
Ah oui, alors évidemment, Simenon, grand auteur pour moi. J'ai hérité de ma belle-mère les œuvres complètes de Simenon. Et il y a quelques années, dans Paris est un roman, j'avais fait une conférence au Châtelet sur Maigret. Et bizarrement, à deux pas d'ici, où on est boulevard Saint-Marcel, là, et... Il y a un petit resto là-bas au coin où j'ai rencontré par hasard une vieille anglaise qu'on a mise à ma table parce que le resto était bondé, il n'y a pas longtemps, il y a 3 mois. Et elle pose un Simenon sur la table. Et je dis, très bon choix, madame. Elle me répond, je devine que c'est une vieille anglaise. Et je lui dis, mais vous lisez des romans policiers? Elle me dit, oh, vous savez, moi, mon oncle était archéologue.
En plus.
Et je comprends et je lui dis, et c'était le meilleur ami du mari d'Agatha Christie.
Formidable.
Ouais.
Formidable. L'archéologie de soi-même.
Voilà, et elle avait évidemment connu Agatha Christie, parce qu'elle a 80 ans, donc elle l'a croisée, elle était petite, elle. Et puis, voilà, c'est une apparition étonnante. Donc, oui.
Est-ce que vous écrivez votre journal, Michel Kahn?
Non. Ah non. Je n'écris pas le journal. Je prends des notes là dans mon sac. J'ai un petit carnet parce que il y a des choses qui me traversent. Sinon, je les prends au verso des notes de bistrot. Et puis non, je suis volontairement bordélique avec mes notes, avec ma. Et puis quand je commence à écrire, il y a tout ça sur mon bureau. Je regarde ça. C'est un peu chamanique, quoi. Je regarde ça, et puis il y a tout ce dont je me souviens. Alors j'ai des séquences, et puis après j'organise tout ça, mais en direct. Et puis à la fin, je regarde si j'ai oublié des trucs. Et la mémoire, c'est mon mode de tri. S'il y a des choses que j'ai négligées, c'est que ça valait pas le coup. Mmh. Voilà, c'est ce que je me dis. Mmh. Après il y a des phrases clés que je conserve.
On sent que, est-ce que vous vous laissez porter par une phrase, parce que les phrases sont très importantes, c'est votre écriture. C'est pour ça que je parlais du polar tout à l'heure, parce que le style dans le polar, c'est très important. Donc il y a l'histoire et puis il y a l'écriture, et on sent qu'il y a des ingrédients qui viennent, des trouvailles, des carambolages de la vie qui se retrouvent dans la phrase.
Oui. Alors, ce que je reproche au polar actuel, c'est que c'est un truc très mode, quoi. Mm. Je sais pas pourquoi. Et qu'il y a... je vais me faire des ennemis, là. Mais qu'il y a des auteurs remarquables. Je citerai Hervé Lecor, des gens comme ça, Marin Le Dain... Bon, Pascal Dessin, et puis il y a une espèce de ruée sur le polar, des gens qui racontent des trucs gore, des assassinats, des démembrements, des machins, plus c'est sanglant. Et alors, et surtout, il n'y a pas d'écriture.
Voilà, c'est ça.
Surtout, il n'y a pas d'écriture. Je veux dire qu'on raconte un truc horrible avec du style. Ça va. Mais sans, non, c'est pas possible.
Le racolage, non, merci.
Oui, voilà, la médiocrité, le racolage, c'est non. C'est non. Or, c'est ce qui prévaut actuellement.
Quels sont, à part, on a parlé de Modiano, mais quels sont les autres écrivains qui, pour, les, pour le style, pour l'écriture, qui vous marquent et que vous relisez? Quels sont vos grands classiques?
Alors, mes grands classiques, c'est évidemment les gens du 19e, hein, c'est Maupassant, c'est Flaubert. Ouais. Flaubert, pour moi, Madame Bovary, difficile de faire mieux.
Et au 20e?
Au 20e, il y a, dans les actuels, il y a Serge Chalandon, il y a, puis je viens de découvrir Gilles Marchand, là. Et, oui, il y en a eu, bon, il y a Valentine, il y a Carole Martinez, il y a, non, il y en a quand même un paquet, hein. Il y a Anne-Marie Gara qui vient de disparaître, là. Et que j'adorais. Non, il y en a plein. Bon, il y a Modiano aussi, c'est sûr. Alexis Génie, j'aime bien. Tous ces gens-là écrivent vraiment. Les autres font semblant. Il y en a beaucoup qui font semblant d'écrire, qui racontent vaguement une histoire. Bon.
Ouais.
Ouais, c'est sans intérêt.
Vous travaillez sur plusieurs manuscrits à la fois ou sur un seul à la fois?
Là, je suis un peu très emmerdé, quoi. Parce que j'ai accepté amicalement d'écrire la légende d'une brasserie lilloise qui s'appelle la brasserie André et qui va fêter son centenaire. Bon, je suis déjà bien avancé dans cette légende que j'ai romancée. Ensuite, j'ai accepté d'écrire là aussi amicalement pour un licencié de French Pulp, Stanislas Petrovski, un polar qui sera un polar pur et dur, un polar à ma façon, et qui s'appellera Mademoiselle Crépuscule.
Ah bah, décidément.
Voilà. Mademoiselle Crépuscule qui se passera dans un cimetière avec un gardien de cimetière comme personnage principal. Ça, il faut que je rende fin mars. Et puis j'ai plein de notes et puis j'ai écrit le prologue d'un roman qui s'appellera Avec fracas et qui tente de faire le point sur la situation psychologique et sociologique. C'est beaucoup, ça paraît un peu prétentieux, mais enfin, je vais faire de mon mieux après la première vague de Covid.
Ouais, donc l'aspect social a aussi le contexte social a son importance pour vous.
Oui, le contexte social a son importance. C'est comment mon interrogation, c'est comment on s'est relevé de ça, comment on a pu reprendre pied, comment on a pu quel a été le déferlement de différentes choses, en particulier d'une certaine violence, d'un individualisme forcené. Bon, je vais essayer de faire le point là-dessus. Je sais pas si je vais y arriver, mais enfin, je vais raconter une histoire.
Bon, on va faire une petite pause musicale et on reprend notre conversation, Michel Quint.
Je porte à mon cou mon souvenir de toi, ce souvenir de soi qui se souvient de nous. Ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air est doux. C'est qu'encore une fois, j'ai voulu tout à coup me souvenir de toi, de tes doigts sur mon cou. Souvenir de nous, quand on se disait vous. Si je porte à mon cou mon souvenir de toi, ce sourire de soi qui sourit comme nous serions autrefois, quand on se disait vous, en regardant la nuit autour de nous. C'est qu'encore une fois, j'ai voulu revoir comment tombe le soir quand on s'aime à genoux. Si je porte à mon cou mon souvenir de toi, ce soupir de soi qui soupire après nous, ce n'est pas pour que tu vois comme je m'ennuie sans toi. C'est qu'il y a toujours l'empreinte sur mon cou, l'empreinte de tes doigts, de tes doigts qui se nouent, l'empreinte de ce jour. L'écharpe de soie que tu portais chez nous, c'est pas qu'il fasse froid, le vent de l'air est doux, ce n'est pas qu'il fasse froid, le vent de l'air est doux.
Michel Quint, troisième round, comme on dit. Ah, voilà, autour de votre livre, votre roman, La Printanière, qui vient de paraître chez Serge Safran, éditeur. Alors, on a parlé de la boxe, on a parlé de Mado, d'Étienne, votre narrateur, personnage. Il y a beaucoup de femmes, hein, c'est.
Oui, bah, parce que j'aime bien les femmes. Tout le monde me. On ne me le reproche pas. Ça me fait plaisir. Bon, oh, j'aime bien. Non, c'est un truc dont j'avais parlé avec Michel Serres et que je raconte au Furet du Nord. J'en avais parlé avec Michel Serres qui était venu faire un débat au Furet du Nord. Et à l'origine, je suis quand même un peu un helléniste. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que le mot cosmos, bon, tout le monde sait que ça veut dire le monde, l'univers, etc. Mais peu de gens savent que c'est aussi la toilette de la femme.
Ouais, comme quoi, tout se retrouve. Hein.
Et voilà, et que donc, le fait que la femme s'apprête, qu'elle se toilette, qu'elle se fasse belle, c'est une garantie de l'harmonie du monde. Et ça, c'est un truc à quoi je crois, mais vraiment.
Oui, Michel Quint, parlons du cosmos et des femmes. Donc, vous me parliez d'un peu d'étymologie, comme.
Oui, l'étymologie grecque. Donc, cosmos, ça signifie l'univers, ça signifie le monde. Ça, tout le monde le sait. La cosmologie, c'est la science du monde. La cosmogonie, c'est la façon dont le monde a été enfanté. Et mais c'est aussi la toilette des femmes, le cosmos. Ça veut dire que quand la femme s'apprête, quand elle se fait belle, elle garantit en quelque sorte, de façon magique, l'harmonie du monde et la bonne tenue du monde. Alors en ce moment, c'est difficile parce que je pense qu'il faut que les femmes fassent un effort pour l'Ukraine, quoi. Il faut que toutes les femmes se fassent très belles pour l'Ukraine. Et alors c'est rien d'autre, les fameuses mouches au 16e ou 17e, cette façon de créer une espèce de ciel sur le visage de la femme, c'était rien d'autre qu'une tentative de magie pour apprivoiser les dieux, pour apprivoiser, alors à l'époque évidemment c'est pour apprivoiser le dieu, pour apprivoiser le petit Jésus, et faire en sorte que tout se passe bien, quoi.
Alors le visuel dans votre livre a beaucoup d'importance, la silhouette, l'art de la silhouette, en effet de ce qu'on a laissé en chemin, de notre ignorance de nous-mêmes, voilà, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, donc cette espèce de. Votre personnage, il a des lourds bagages, il a sa vie, il a plusieurs vies, nous avons tous plusieurs vies. Hein, donc. Je crois que toute vie est tissée de celle des autres, que nous sommes que ces nœuds avec autrui, un manteau d'arlequin mal taillé, même la solitude est faite de mémoire, d'attente, d'espoir, de ces nœuds à venir. Donc il y a. C'est une sorte de. Je pense à la couture.
Mais ma mère était couturière. Donc. J'ai passé mes premières années, je ne suis pas allé beaucoup à l'école maternelle, je suis allé un mois et demi. À l'époque, on commençait le 1er octobre, je suis né le 17 novembre. Le 17 novembre, je suis passé à l'école maternelle, à l'école des garçons. Bon, et on m'a mis à côté d'un certain Delattre, qui était complètement idiot et analphabète, et puis qui ne touchait pas terre. Bon, mais peu importe.
La couture,
la couture, c'est J'ai cousu ma mère appelait ça des chiquettes, c'est-à-dire tout ce qu'elle jetait qu'elle pouvait pas utiliser les petits bouts. Elle mettait ça dans sa corbeille. Et moi, j'enfilais des aiguilles et puis je cousais ça. Alors ça, évidemment, c'était pas des œuvres d'art, c'était rien du tout. C'était juste, elle faisait un chiffon un peu différent. Mais déjà, j'étais un rhapsode. Ça, je le sais. Déjà, je cousais les trucs ensemble. Oui. Hein, il y a les rhapsodes et les aèdes dans l'Antiquité, dans l'Antiquité grecque. Et cette corbeille, elle est toujours sous mon bureau.
Eh ben, vous voyez, je sens que la couture, le lien. D'ailleurs, même la façon, même ses amours, il aime le marivaudage sans illusion. J'ai bien aimé ça.
Oui, mais moi j'aime bien le marivaudage sans illusion, sans perspective et sans volonté d'aboutir. Il y a une dame, il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours, qui m'a envoyé un message en me disant « Je t'aime depuis 20 ans ». Alors, on s'est expliqué quand même. C'est pas moi en tant qu'individu, que personne charnelle. C'est pas mes baisers qu'elle aime, c'est mes bouquins. Bon, mais ça a fait quelque chose. Mais du coup, on s'est mis à marivauder.
Oui, voilà.
Et puis voilà, parce que Marivaux, c'est pour moi, c'est un immense auteur, parce que c'est aussi une phrase dans une chanson de Reggiani. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit « je t'aime ». C'est la surprise de l'amour. C'est le fait de dire que le mot, d'un seul coup, crée la chose. Et ça, c'est les fausses confidences, c'est ça.
Et voilà, à chaque fois, c'est... Et l'art de la réplique. Alors, vous aimez aussi la chanson. Vous parlez de Mouloudji, je crois.
J'adore ça, j'adore la chanson. Je suis hanté par la chanson. Ça me traverse tout le temps.
Et on sent ça, on sent que vous avez le... Oui. Prenez au vol la vie, vous prenez au vol les mots. Et il y a aussi, votre narrateur se méfie de lui-même. Désormais, je me méfie de moi, je me tiens en laisse si nécessaire. Donc on sent qu'il est à l'écoute de lui-même.
Il sait très bien là où il foire. Mais pour la chanson, c'est drôle parce que il y a une jeune romancière qui s'appelle Gabrielle Tulou, qui travaille aussi pour le 1 de Fotorino. Oui. Et Gabrielle et moi, on s'est rencontrés dans le salon du livre. Je ne sais plus où. Et puis, je ne sais pas pourquoi, on mange l'un côté de l'autre. Et je cite l'écharpe, si je porte à mon cou. Et elle continue.
Et c'est ça qui est bien.
Et elle a 35 ans.
Donc
Et on se dit, bon, là, il y a une complicité. Là, il y a une espèce de fond. Bon, le coquelicot de Mouloudji, si on ne connaît pas ça, il manque quelque chose quand même.
Je pense aussi.
Hein, bon, voilà, si on connaît pas Brassens, le 22 septembre, au diable vous partite, depuis chaque année, à la date susdite, je mouillais mon mouchoir en souvenir de vous, mais nous y revoilà, et je reste de pierre. Plus une seule larme à me mettre aux paupières, le 22 septembre aujourd'hui, je m'en fous. C'est magnifique.
Magnifique. On parlait de Paul Fort, donc que Brassens a chanté.
Oui, bien sûr, bien sûr. Donc c'est un truc qui la chanson française, ça me hante. Pas la chanson anglo-saxonne parce que l'anglais m'est complètement inconnu. Je peux commander une bière en anglais, c'est sûr, mais pas plus.
Ouais. Mais c'est vrai, on sent ce sens-là de. Je parlais du marivaudage, de la couture, de la chanson, du lien populaire.
Oui, parce que tout ça, c'est l'âme du peuple. L'âme du peuple, c'est pas, évidemment que c'est pas Kant, que c'est pas Hegel. Ça pourrait l'être, parce que le peuple est pas plus abruti qu'autre chose. C'est juste que il a pas eu l'occasion, qu'il a pas voulu, être ouvrier, c'est pas une tare. Mes deux grands-pères étaient mineurs. Et mon grand-père maternel était quelqu'un d'une culture absolue. Et je lui dois énormément. Donc, rien n'est impossible, il faut juste se sortir les mains des poches. C'est tout. Mais il y a dans le Nord, énormément. Il y a une âme populaire, il y a quelque chose qui... Bon, dans le Nord, on peut parler des géants, par exemple. On peut parler de... On peut parler des philharmonies, parce qu'il y en a énormément. On peut parler des brasseries, on peut parler... Tout ça fait agréger, tout ça fait que... Ben, il y a un homme du Nord, il y a une femme du Nord, la proximité de la Belgique. Voilà, moi, je peux dire, je suis un enfant je suis un enfant de la fraude, quoi. Mmh. Ma première cigarette, c'est ma femme qui me l'a donnée, elle l'avait fraudée. Bon, peut-être qu'elle aurait pas dû, mais ça fait partie de mon histoire. Mmh. Et je pense que la fraude, le passage, comme ça, de la frontière, ça fait partie de l'histoire des familles du Nord. Alors maintenant, évidemment, il n'y a plus de fraude. Mmh. Mais il y a des légendes. Bon, Maxence van der Merch.
Oui, c'était très important.
La dune. Très important. Bon, quand les sirènes se taisent, c'est cette relation avec la Belgique est importante. Donc oui, il y a une âme populaire. Mmh. Hein.
Et ça a beaucoup évolué dans le Nord, j'imagine, entre votre jeunesse et maintenant.
Oui, ça a évolué dans la mesure où le fossé s'est creusé, quoi. C'est entre les possédants et puis les va-nu-pieds, quoi.
Ouais. Alors, au sujet de Mado avait une garde hermétique, menton bas et poing levé. Elle prenait beaucoup de coups sur le ring et sa vie privée était cadenassée. Pareil. Elle la conservait bien par-devers elle, tout se passe, c'est là qu'il y a toute l'histoire. Et c'est deux combats, hein. Il y a combat d'une fille pour retrouver aussi ses origines, le combat...
Oui, parce que Mado est adoptée. Voilà. Elle est adoptée par Simone, qui est désormais veuve d'un chirurgien cardiaque, donc une grande bourgeoise. Et qui est, Simone, la fille d'un tenancier de club de boxe, d'où la vocation, évidemment, d'où la pratique de Mado, la pratique de la boxe par Mado. Et donc, les parents de Simone, mère adoptive de Mado, tiennent encore le ring est abandonné, mais ils tiennent encore un zingue dans le vieux Lille, avec la bénédiction des photos de Georges Carpentier, de Charles Lumez, des grands champions issus du Nord, quoi.
Issus du Nord, et on sent que chacun aussi choisit son ring. Il y a des portraits, beaucoup de portraits aussi de la jeunesse, finalement. Vous montrez les espoirs de la jeunesse, ceux qui sont vieux avant l'heure, ceux-là ont 80 ans en terminale, leur vie d'ingénieur, de toubib, de jardinier, paysagiste, de n'importe quoi, avec la même petite ou le même petit boutonneux qu'en classe de seconde, est un long enterrement. Il y a les morts avant la date annoncée et les vivants qui sont peut-être aussi morts. Ils ne savent pas, mais ils sont déjà morts. Tu le vois dans leurs yeux, d'autres élèves, les plus fragiles, pas les moins bons, au contraire, surtout les plus doués, les bosseurs, les curieux, les inquiets, les créatifs, ceux qui doutent du bonheur sur commande. Ces autres vivent mal ces espèces de rails, ces repères définitifs, ce renoncement à la liberté. Or vous, votre narrateur, plus exactement, ne renonce à rien.
Non, il renonce à rien parce qu'il constate ce dégât, cette espèce d'amputation de l'avenir chez ses élèves, quoi. On est en terminale, on est un peu sommé de. À la fin de la terminale, on est un peu sommé de. Avec Parcoursup maintenant, de choisir, de dire voilà, je serai médecin, je serai ceci, je serai cela. Et on n'a pas le droit de rater. Et puis. Et cette espèce d'anticipation actuellement, où on se dit, voilà, je m'en choisis un ou je m'en choisis une, et puis comme ça c'est fait. C'est on est à la recherche de certitude, on a besoin de rails, de choses déjà définitives. Et la vie, c'est pas ça. Et je le sais bien, puisque j'ai moi-même fait l'expérience de ça, d'avoir des certitudes dès la troisième, et puis qu'elles soient déjouées par le cours de la vie, quoi. Et puis que je suis revenu sur ces rails parce qu'on en avait envie, quoi. Mais on en avait envie après, pas avant tout. C'était un choix pesé. Et on mutile les jeunes gens maintenant, me semble-t-il.
Oh, ils étaient un peu aussi. Il y en a qui s'automutilent aussi.
Oui, il y en a bien sûr.
Qui renoncent d'emblée.
Oui, il y en a qui renoncent d'emblée ou qui font les mauvais choix ou qui. Mais il y a des. Il y a beaucoup de miroirs aux alouettes, quoi.
Bien sûr, qui endossent trop vite la panoplie qu'on veut bien leur faire endosser.
Voilà. C'est maintenant, il faut être avocat ou architecte ou médecin ou même si on n'en a pas les moyens.
Ni la vocation. Est-ce que
ni la vocation ni oui, j'ai une amie qui est brillante, qui est belle, qui est. Enfin, elle a 30. Elle vient d'avoir 34 balais, elle a 34 ans, le 2 octobre, qui est aussi mon anniversaire de mariage. Et elle était cardiologue au CHR, et elle a renoncé. Parce que finalement, elle n'est pas faite pour ça.
C'est très bien.
Ouais. Mais brillante, belle, tout ça, hop, voilà. Elle était au sommet de ce qu'on espérait d'elle.
Ouais, mais il y a cette présence du renoncement dans votre livre. Oui. Oui, tout est tracé, sauf que.
Oui, tout est tracé, mais il arrive un moment où il faut être capable de dire non. Ou de dire oui, mais je fais autre chose aussi. C'est un peu le tracé de ma vie, quoi. De dire, bon, j'ai été prof pendant 41 ans. Ça m'a absolument pas déplu. J'étais un prof heureux. J'ai fait 20 ans de lettres classiques, français, latin, grec, et puis 20 ans de TED, théâtre expression dramatique. Mais à partir de 78, j'étais publié. Et ça, bon, j'avais pas de douleur éducation nationale, mais il y avait cette envie que j'arrivais à satisfaire. Alors j'aurais pu faire du cornet à piston si j'avais été capable d'en jouer, mais je n'étais pas capable d'en jouer. Voilà.
Donc on peut parler de vocation.
On peut parler d'envie qu'il faut se donner les moyens de satisfaire.
Mmh. Il y a une dernière phrase de votre livre. Tu connais le chemin de mes rêves d'enfant, ceux qui vivent encore dans la chambre d'amis. J'ai beaucoup aimé cette phrase là.
Oui, parce que. C'est Nietzsche, si un peu de cuistory ça ne nuit pas. C'est Nietzsche qui disait qu'il faut garder à l'âge adulte le sérieux des jeux de l'enfance.
Et l'enfance est là toujours, l'enfance. Et puis alors toujours le combat, ça c'est le dernier paragraphe. Et puis je serre les dents, je n'ai pas les mots pour le dire. Le soleil, la lumière, la beauté des hommes et des femmes. Dire le cœur battant, la douleur et le temps. La jeunesse en aller, dire le monde, la vie, la mort. Je n'ai pas les mots pour les mots. Ça c'est un comble, Michel. Je n'ai pas les mots pour les mots. Est-ce pour ça que vous écrivez finalement?
C'est un peu. Pense à encore un peu de cuisserie, Michael Curtis, avec un film avec Kirk Douglas, l'homme à la trompette. Et il cherche la note bleue.
Ah oui.
Eh bien, je cherche la note bleue. Je cherche le mot bleu. Christophe aussi, il a cherché les mots bleus. Bonjour. Voilà.
En pensant aux chansons, on pense aussi au tourbillon de la vie.
Oui, bien sûr, bien sûr. Jeanne Moreau, oui.
Je t'ai perdu, je t'ai retrouvé, et ça, on est emporté dans le tourbillon de la vie.
Ouais.
Ce tourbillon-là, c'est vous en avez besoin pour écrire. Il y a des moments où vous particuliers. Quand est-ce que vous écrivez, Michel Quin, un peu.
J'ai un rituel que je peux bousculer, mais en général, j'écris l'après-midi et le lendemain matin, je relis parce qu'il faut se méfier de soi. Je relis, puis je sabre, je modifie, je corrige. Parce que chaque fois que je suis content de moi, je sais que c'est mauvais. Donc le lendemain, j'y reviens. Et puis l'après-midi, ben, je progresse.
D'accord.
Voilà. C'est un système comme un autre. On a tous nos trucs. Je sais que Daniel Picouli, par exemple, lui, il a une espèce d'horaire bien réglé, qu'il a besoin de ça. Bon, voilà. Ça donne pas de mauvais résultats.
vous écrivez directement sur ordinateur ou vous reprenez ce qui est écrit à la main dans vos carnets?
Il faut que je m'en souvienne. mais j'écris directement sur ordi. Ouais, mmh. Ouais. C'est une vieille histoire, ça.
La machine à écrire.
Non. C'est le passage machine à écrire ordi. Mmh. J'avais fait un projet de 20 épisodes d'une demi-heure pour les feuilletons de France Culture, et puis j'ai pas de réponse. Et je me souviens de la date parce que c'était un 1er novembre, au jour de Toussaint. Je vais au théâtre ici à Paris. Je rencontre Alain Paulet qui dirigeait les feuilletons pour France Culture. Il me dit alors ça avance. Je dis ça avance quoi? Ben, le feuilleton des Éthiopiques. Je dis mais j'ai pas le contrat. Comment ça? Vous n'avez pas le contrat? J'ai pas le contrat. Donc j'ai juste une demi-page par épisode, donc j'ai 20 pages, et c'est tout. Et il me dit, mais ça va pas du tout, parce que il faut rendre le 15 décembre, et l'enregistrement commence le 2 janvier. Et là, je me suis dit, il va falloir faire quelque chose, parce que jusque-là, j'écrivais à la main, ensuite je tapais à la machine, et puis quand je ratais, j'arrachais, et je recommençais. Et donc c'était l'époque, je me souviens plus, enfin on est dans les années 80.
Oui.
C'est l'époque où les ordinateurs arrivent vraiment sur le marché domestique. Et je vais chez Hewlett-Packard, et puis ça, je dis, j'ai pas le temps, quoi. Je veux pas être capable de me servir de ça. Et puis j'ai un partenaire de squash qui me dit, tu sais que j'ouvre une boutique d'ordi. Je dis, ah bon? Et j'ai dit, c'est quoi? Il me dit, c'est Apple.
Génial.
Et je suis allé donc dans sa boutique. Une demi-heure après, je savais me servir d'un Mac et j'ai livré avec 2 jours de retard.
Bon, ça va.
Ouais. Et donc, depuis, je suis à mon, je sais pas combien, 10e Mac.
Oui, comme on est tous, on les compte tous.
Voilà.
Mais est-ce que c'est vrai que ça a changé votre façon d'écrire?
Oui, parce que il n'y a plus de retenue. On y va franco. On sait qu'on peut revenir, qu'on peut tout changer, qu'on peut mettre le paragraphe là, on peut le mettre là, on sait que tout est possible. Mmh. On sait que la nana qui s'appelle Françoise suffit, et elle va s'appeler Muriel. Mmh. Ce qui est pas mieux, hein.
Ouais. Le prénom des personnages, c'est important?
Oui. C'est même essentiel. Mmh. C'est même essentiel. Ouais. Mmh. Mado, c'est un peu suranné, quoi. Il y a quelque chose du passé en elle. Et Simone, c'est la même chose.
Oui.
Simone, c'est une voluptueuse. Simone, c'est une généreuse de la chair. Et elle s'appelle Simone, quoi. Elle devrait s'appeler Audrey. Eh ben non.
S'appelle Simone.
C'est quelqu'un qui trimballe encore quelque chose d'ancien. Et ce qu'elle trimballe d'ancien, c'est le ring de ses parents.
Tout à fait. Étienne aussi.
Étienne, c'est un prénom pour Modiano.
Ouais.
C'est un prénom à la Modiano, quoi.
Par contre, son nom est compliqué.
Ah, Van Kovenberg, là, c'est. Oh, voilà. Ah oui, mais là, on peut pas faire autrement, quoi. C'est un flamand, quoi. C'est, ouais. Il vient de là, quoi. Il s'appelle pas Dupuis, hein.
Les personnages, vous les voyez? Comment naissent-ils? Comment naît un personnage, Michel?
Ah ouais, je les vois. Ouais, je les compose. Visuellement. J'ai leur image. Quelquefois, je garde une photo. C'est des femmes, hein, les mecs, je m'en fous. Oui, je vois dans un magazine ou un truc comme ça une portrait de femme, et c'est pas du fétichisme ou du... Non, je me dis, tiens, ça, c'est... Il m'arrive même, j'ai demandé à une jeune élève qui était admirable et belle, dans un salon du livre, il y a 3 mois, est-ce que je peux te photographier parce que j'ai besoin de ta photo pour un personnage. Et cette fille elle était en 3e, elle avait lu plus que ce qu'elle devait lire pour le collège, et puis elle est venue avec sa mère, et c'est là que, bon, comme la mère était là, je n'ai pas hésité, elle est venue m'acheter d'autres bouquins, et sa mère a dit, tu fais la liste des autres qui sont pas là, je les commande.
Ah, oh, c'est bien.
Ouais.
C'est bien, c'est émouvant.
Oui. Donc, en plus, je me suis dit, mais elle est complètement un de mes futurs personnages. Donc, j'ai pris sa photo.
Oui, vous avez bien fait. Est-ce que, voilà, il y a des. En signature, il y a des rencontres qui vous ont marqué?
Ah oui. Ah oui, il y a des rencontres qui m'ont marqué. Là, j'ai laissé mon téléphone. Mais... oui, il y a une jeune femme que j'ai croisée et qui m'a demandé ce sur quoi j'écrivais. Et puis, je lui ai dit, je commence à travailler sur les violences faites aux femmes, violences pas forcément physiques. Psychologique, enfin les humiliations. Et puis elle m'a demandé si on pouvait être amis sur Facebook, et puis ce qu'on est devenu, et puis on est passé à Messenger, et puis on a échangé le numéro de téléphone, et puis elle m'a raconté son histoire. Et maintenant on est amis, vraiment. Et deux ou trois fois par semaine, elle m'envoie un petit mot le matin. Passe une bonne journée, Michel, bisous.
Voilà. Des liens par Facebook aussi. Vous êtes un homme. Vous avez un site internet, non?
J'ai pas de site. Non, non.
Par contre, on peut. Vous, voilà,
sur Facebook. Ouais. Sur Facebook, je ne mets que les manifestations à laquelle auxquelles je participe. Et après, je fais le tri. Bon, parce qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui sont mes amis sur Facebook que je connais, et puis Annick là c'est l'exception.
Avez-vous, c'est ma dernière question, avez-vous quand vous écrivez en tête votre lecteur ou votre lectrice? Est-ce que vous pensez au lecteur?
Non, pas du tout. J'ai pas de cible. Non, j'essaye d'écrire pour un lecteur intelligent. Et alors, je vais faire une référence. Il y a un livre que je viens de lire qui est vachement bien. Hein. C'est de Patrick Pechereau, s'appelle Pour tout bagage. Et j'ai quand même mis sur Facebook qu'il fallait avoir au-dessus de 55 ans et avoir une sacrée culture générale pour l'apprécier complètement. Mais ceci dit, je ne sais pas si quelqu'un qui a 30 ans et qui a une culture G moyenne ne peut pas prendre plaisir à ce bouquin. Ça, j'en sais rien. Il faut vérifier, il faut demander.
Donc, vous relisez à voix haute? Non.
Jamais. Non, jamais. Non, je ne me relis pas et je ne remue pas. Même à voix basse, quoi.
Un livre, quand il est fini, c'est qu'il n'y a plus.
C'est fini. Oui, celui qui m'importe, c'est celui que je suis en train d'écrire, parce que celui-là, je peux encore l'améliorer. Les autres, non. Fini.
Merci à vous, Michel K.
C'est moi qui vous remercie.
Et puis, je recommande à nos auditeurs de vous lire et de faire la complète, d'ailleurs, de compléter, d'avoir sa petite bibliothèque Michel Quint, mais de lire déjà La Printanière, qui vient de paraître aux éditions Serge Safran. Merci à vous, Michel Quint.
C'est moi qui vous remercie.
Avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.